Voici le deuxième épisode de ma série sur l'année 1966. Au menu, on a volé la Coupe du Monde de football, le champagne coule à flot aux 24 heures du Mans, le roi du tiercé gagne des millions, Sœur Sourire revient, tandis que Brel dit bye-bye à la scène.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1966.
En 1966, la Coupe du Monde de football doit se dérouler en Angleterre. Et à 113 jours du coup d'envoi, catastrophe. La Coupe du Monde, qu'on appelle le trophée Jules Rimet, a disparu. Elle a été volée, alors qu'elle était exposée à Londres, au Central Hall de Westminster.
Scotland Yard ne disposait encore d'aucun indice sérieux ce matin sur le vol de la Coupe du Monde de football. Tout au plus, intéressons à un personnage énigmatique, grand, brun et mince, qui pourrait peut-être aider la police dans ses recherches. Mais si l'on n'a toujours aucune idée sur l'identité des voleurs, la manière dont ils ont opéré est en revanche assez claire. Dans le même immeuble où était exposée la coupe, et qui appartient à l'église méthodiste, se tenait dimanche matin un service religieux. Les voleurs sont donc mêlés à la foule des fidèles, et tandis que s'élevaient les cantiques à la gloire des richesses spirituelles, ont prestement fait main basse sur les 9 livres d'or massifs de la coupe. Ce n'est pas la première fois qu'un trophée sportif disparaît ainsi en Angleterre. Et l'on n'a jamais retrouvé ni la coupe du championnat national de football volée en 1896, ni le vase d'or d'Ascot disparu en pleine course 12 ans plus tard.
Mais il y a quelque chose d'étrange. La Coupe du Monde vaut à peine 2000 livres, tout juste 25 000 francs. Alors qu'à côté d'elle était exposée une collection de timbres qui dépassait les 40 millions de francs. Et les voleurs n'y ont pas touché.
C'est ce qui fait espérer au directeur de l'exposition, M. Richardson, que la coupe n'est pas disparue pour toujours, qu'il ne s'agit que d'une mauvaise farce, pour lui d'un très mauvais rêve, et que le précieux trophée sera retrouvé sans tarder. La police est plus sceptique et trouve que, de son point de vue, le programme de la Coupe du Monde commence en tout cas assez mal. Quant aux Anglais, dans leur ensemble, ils sont surtout horriblement vexés. Sous le coup de l'émotion, le trophée et le championnat tendent presque à se confondre dans les esprits, et le Daily Sketch, ce matin, barre sa première page d'un grand titre noir: l'Angleterre perd la Coupe du Monde. Le très sérieux Daily Telegraph lui-même relègue au second plan les nouvelles de la campagne électorale, tandis que le Times publie une photographie du trophée dans le vague espoir peut-être d'inciter ses lecteurs à participer aux recherches.
Les Anglais passent pour des rigolos aux yeux du monde entier. La police britannique multiplie les arrestations et les gardes à vue. Et après une semaine d'investigation, ça y est, on a un suspect. Et au même moment, une demande de rançon.
Un homme est inculpé officiellement du vol de la Coupe du Monde. Il s'appelle Edward Bletchley, c'est un docker. Depuis hier, Bletchley était interrogé par les policiers de Scotland Yard. Mais si on a retrouvé un voleur, on n'a pas retrouvé la coupe elle-même. Et pourtant, cette coupe commence à réapparaître. Je dis bien commence, car pour le moment, on n'a revu de la coupe qu'un petit morceau d'or prélevé sur le haut du trophée. Ce petit morceau a été envoyé à l'un des dirigeants de la Fédération britannique de football. Ce dernier l'a fait examiner par un laboratoire. Il n'y a pas de doute, il s'agit bien de la Coupe du Monde. Pour ce qu'on peut en savoir, les auteurs de l'envoi, faisant ainsi la preuve qu'ils détenaient la Coupe du Monde, auraient fait connaître que le reste suivrait en échange d'une rançon. Une rançon assez forte, bien plus élevée que toutes les récompenses promises jusqu'à présent pour retrouver cette Coupe du Monde. Mais l'affaire n'est donc pas terminée, il reste donc maintenant à retrouver le trophée lui-même, car Edward Bletchley n'a pas agi seul. Ses complices détiennent toujours la Coupe du Monde.
Le docker refuse de balancer ses complices. Le lendemain, un certain Dave Corbett promène son chien Pickles. Et dans un petit square, Pickles dégote quelque chose. Un paquet. Son maître l'ouvre. Oh my God! It's the World Cup Trophy. C'est la coupe! Pickles, ce bâtard noir et blanc, vient de retrouver le précieux trophée que le monde recherche depuis une semaine. Pickles fait la une du monde entier. 3 mois plus tard, la Coupe du Monde débute en Angleterre et les Rosebif s'extirpent de la phase de poule en battant la France. Aisément, hein? 2-0.
La France aurait dû faire un match nul.
C'est un beau match pour la France, c'est dommage, quoi. Je crois qu'il manque encore beaucoup de choses, hein, pour les joueurs français, quoi.
Vous pensiez, vous, qu'il y avait moyen de faire mieux?
Certainement.
Ah oui, il aurait pu faire mieux. Ce qui en manque aux Français, c'est un buteur. Ils n'ont pas de buteur.
Je crois que le sélectionneur n'est pas sa tâche. Je crois qu'on doit le mettre dehors. 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 Je crois qu'il n'aurait jamais dû mettre main aujourd'hui.
Vous allez continuer à suivre la Coupe du Monde avec autant d'attention?
Malgré que la France est éliminée, je le suivrai.
Quels sont vos favoris maintenant?
Portugal.
C'est la Hongrie devant le Portugal et la Russie.
Est-ce que vous pensez que l'équipe de France pouvait faire mieux qu'elle a fait?
L'équipe de France a été très courageuse. Elle méritait peut-être un but, n'est-ce pas?
J'attendais pas mieux. Je suis content.
Les Français ont vraiment perdu contre plus fort qu'eux. Le 30 juillet 1966, pour la première fois de l'histoire, les Anglais, inventeurs du football, remportent la Coupe du Monde.
L'Angleterre est entrée aujourd'hui dans l'histoire du football. Elle a remporté la Coupe du Monde qu'elle organisait et il y a sans doute une relation de cause à effet dans ce résultat. Il est bien évident que les Anglais, sachant que l'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, avaient fait cette Coupe du Monde à leur mesure. Ils ont joué tous leurs matchs sur leur terrain mascotte de Wembley, ce qui correspond, dit-on couramment, à donner un handicap de 2 buts à l'adversaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, madame, cette victoire de l'Angleterre?
Une victoire pour l'Angleterre!
C'est formidable, hein?
Oui, c'est formidable! Ils ne vont travailler plus! C'est terminé et nous avons gagné!
Et surtout, ne pas oublier que si les Anglais soulèvent la Coupe du Monde, c'est grâce à Pickles. Ça donne envie d'écouter Mirza, ça, de Nino Ferrer.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici?
C'était Nino Ferrer qui chantait Mirza en 1966.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1966.
Pour l'édition 1966 des 24 heures du Mans, Europe numéro 1 innove. Le journaliste Jean Nouéillac prend place à bord d'une voiture avec son micro et son magnétophone Nagra.
Plafond à 210, 220. Voilà une fois. Elle doit rouler à 340 à peu près. Dans cette ligne droite, lorsqu'une Ford ou une Ferrari nous double, on a l'impression de ne pas avancer. Et quand on regarde le contour, le compteur, on est à plus de 200. J'arrive en vue du virage Indianapolis. Je freine. Ça glisse beaucoup.
En 1966, pour la première fois, des ordinateurs contrôlent les kilomètres parcourus lors des 24 heures du Mans.
Les voitures sont elles-mêmes équipées d'un petit générateur que notre laboratoire a conçu spécialement pour les 24 heures du Mans.
Un générateur qui envoie un bip-bip
qui est en somme,
que vous recevez.
C'est dans chaque voiture, il y en a une qui fait bip-bip, l'autre qui fait bop-bop, enfin si vous voulez, on peut l'expliquer comme ça. Chaque voiture émet donc un signal qui est reçu par une antenne qui a été mise dans une tranchée sous la route à la ligne d'arrivée. Le signal rentre, va passer par un amplificateur et va directement rentrer dans les ordinateurs. Les ordinateurs qui ont une mémoire savent par exemple que la voiture numéro 23 ou 25 en est à son 54e tour et lorsqu'elle a enregistré ce signal, automatiquement, elle sait que c'est donc le, si j'ai dit 54, c'est le 55e tour. Elle sait que la distance, elle va calculer la distance parcourue, la moyenne du tour, et tout se fait automatiquement.
La course cette année-là est rythmée par le duel mythique entre deux constructeurs, l'américain Ford et l'italien Ferrari. Depuis 1958, c'est Ferrari qui l'emporte tous les ans. Alors pour cette édition, Ford a conçu une nouvelle voiture avec l'ancien pilote Carroll Shelby. Ça donne la Ford GT40, une sorte de Formule 1 en coque de fibre de fer. Et ça passe!
Alors que voici les Ford. Et voici le trio des trois voitures classées première à la distance. Les trois Ford. Phare allumé qui arrive comme à la parade. Salué par une immense clameur de la foule, voici les trois Ford. Vous entendez l'ovation formidable qui salue le défilé de la Ford numéro 1 qui remporte la P7, qui remporte les 24 heures du Mans à plus de 200 km de moyenne, battant tous les records suivis de la Ford numéro 2.
Les consignes de M. Henry Ford ont poussé la coquetterie jusqu'à demander aux trois Ford d'arriver dans l'ordre 1, 2 et 5 et que l'on regrette que la 3 ne soit pas à la place de la 5.
Monsieur Ford, à quand avez-vous été certain que vous pouviez gagner?
Ma dernière minute.
C'est toujours cela.
Oui. Et au début, est-ce que vous étiez sûr de gagner quand vous êtes venu?
On apprend qu'en fin de course, Henry Ford, qui voulait absolument écraser Ferrari, a demandé à son pilote Ken Miles de ralentir afin d'attendre les deux autres GT40. Et ainsi, les trois Ford ont passé la ligne d'arrivée ensemble. Et cette image a fait le tour du monde. Une publicité formidable, évidemment, pour le constructeur américain. Un pilote de l'écurie Ferrari ne peut que constater la suprématie de Ford.
Mais elle est tellement difficile qu'elle est, impossible, elle est devenue impossible. Les moyens mis en présence sont tellement disproportionnés qu'il n'y a vraiment qu'à s'incliner.
Sur le podium des 24 heures du Mans, la joie est immense. Et comme à chaque fois, un magnum de champagne est remis aux vainqueurs, Colin Davis et Joe Sifford. À l'époque, l'usage est de ramener le champagne à la maison. Mais là, la bouteille n'étant pas fraîche, au cours de la cérémonie, d'un coup, poum, le bouchon saute de lui-même. Et du coup, la foule est arrosée. Un an plus tard, l'équipe Ford remonte sur le podium et, nostalgique de l'incident de 1966, le champagne est volontairement secoué. Et c'est comme ça que naît la tradition de la douche de champagne.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1966.
Le dimanche 20 février 1966, à Paris, à l'hippodrome d'Auteuil, c'est jour de tiercé.
Et la courte tête de la casaque jaune coiffe au poteau, le favori, arrivé du jour. Le 15, le 5 et le 8, pour un tiercé qui devrait avoir un très bon rapport.
À Banalec, dans le Finistère, de l'autre côté du poste, un homme exulte. Et voilà, les gars, c'est qui le roi du tiercé? Ah bah c'est Bibi. Allez Roger, remets donc une suze à tout le monde. Aujourd'hui les gars, je suis millionnaire. L'affable Gabriel Bourris a encore frappé. Il a les trois chevaux dans l'ordre et il ne les a pas joués qu'une fois, hein, ni même deux. Il les a joués 15 fois. Ah, il a eu le nez creux. Bourris empoche donc 15 fois 200 000 francs, c'est-à-dire la bagatelle de 3 millions de francs. Ce boucher de 38 ans fait figure de druide dans le petit monde des courses hippiques. On le surnomme le roi du tiercé. Il a un flair inégalé en France. Mais la belle histoire s'arrête là. Parce que le PMU a très vite des doutes sur ce pari providentiel. Et une plainte est déposée. C'est le commissaire Pinault et son bel accent qui découvre le pot rose.
C'est la plus grosse affaire d'escroquerie au PMU en France depuis que le tiercé existe.
Le lendemain de la course, le roi du tiercé se présente au PMU pour empocher ses gains.
Monsieur Bourris a alors sorti son ticket gagnant. On a avisé le bureau central de Brest qui, après une vérification rapide, a retrouvé effectivement un bordereau gagnant dans les classés, dans les bordereaux perdants de Brest. Il pouvait a priori s'agir d'une erreur, mais le tiercé a quand même payé ses 15 jeux dans l'ordre pour une somme de 288 279 francs. Et ils ont fait venir à Paris l'ensemble des bordereaux du bureau de Rospordin afin de les examiner, car il apparaissait dès le départ qu'il s'agissait d'un bordereau qui avait été falsifié et qu'il y avait escroquerie, une escroquerie dont avait bénéficié Bourris.
Les moyens d'investigation du PMU s'ajoutant à l'action de la police, on peut dire qu'on ne peut pas tromper et on ne peut pas absolument être gagnant malhonnêtement au tiercé, monsieur.
C'est absolument impossible. Le côté technique du contrôle des tickets ne permet pas à une fraude d'être menée à bien jusqu'au bout.
Le roi du tiercé avait un complice au sein du PMU qui avait placé un faux ticket gagnant avec les perdants. Mais le travail du faussaire était trop parfait. Un dirigeant du PMU se félicite de sa vigilance.
Vous savez, il n'y a pas de crime parfait. Et bien que ça ait été fait intelligemment, il y avait quand même certains petits détails auxquels il n'avait pas pensé. Notamment que lorsqu'un ticket a été travaillé, il porte des traces de manipulation, de reproduction de carbone, de pliage. Or, le ticket qu'on nous a présenté était absolument magnifique. Enfin, il sortait du carnet.
4 mois plus tard, le roi du tiercé est jugé pour escroquerie avec son complice. Et Europe numéro 1 est là.
À travers le procès de Gabriel Bourris, c'est un peu le procès du jeu en général et du PMU en particulier qui a été fait. Tout le monde en a parlé par sous-entendu. Le président du tribunal a dit « Le PMU n'est pas une institution publique. La loi tolère cette institution comme elle tolère pas mal de choses. » Enfin, ne nous égarons pas, ce n'est pas le PMU que l'on juge aujourd'hui. L'avocat de Bourris a dit « Mon client était intoxiqué par le jeu. Il n'en dormait plus. » Il en devenait fou.
Le roi du tiercé avait beaucoup de dettes parce qu'il n'aimait pas que les canassons. Il en pinçait aussi pour tous les jeux d'argent.
Il a gagné des fortunes qu'il a dilapidées inutilement. Il jouait au jeu.
Bourris a perdu de très très grosses sommes en jouant au poker. Perdant de son propre aveu facilement 500 000 francs dans la même soirée et même ayant perdu, je crois, plusieurs millions dans une même journée.
Dans son box, le boucher, ex-roi du tiercé, fait pâle figure.
Ex-roi, c'est bien le terme qui convient. Bourris n'a plus de royaume, il n'a même plus la faconde et cette superbe qui en imposait à tout le monde. Devant le tribunal, il a essayé de parler, il a entrouvert les lèvres, mais il n'a pas émis un son. Ses réponses, oui ou non, suivant les questions, c'était par un signe de tête qu'il les faisait connaître au tribunal. Bourris, maintenant que son aventure est terminée, n'a plus rien à dire à personne. L'avocat du PMU a même affirmé, c'est un tocard qui est jugé aujourd'hui.
Verdict, le tocard est condamné à 2 ans de prison et son complice employé du PMU écope de 15 mois de prison avec sursis.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right.
for strangers in the night.
C'était bien sûr l'immense Frank Sinatra en 1966 avec Stranger in the Night.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1966.
En 1966, le texte du Notre Père, la plus célèbre des prières chrétiennes, change. Alors ça ne devient pas « Notre Père qui es aux cieux, restez-y, et nous resterons sur terre » qui est quelquefois si joli, comme le proposait en 1946 le poète Jacques Prévert. Ça ne devient pas non plus « Notre Père qui, je l'espère, es aux cieux, n'ayez cure des murmures malicieux », comme le chantait Georges Brassens en 1961 dans « La Marguerite ». Le changement est beaucoup plus minime.
Quelques mots seulement sont changés pour qu'ils soient plus conformes au texte original, c'est-à-dire aux paroles mêmes du Christ. Ainsi, dira-t-on, « Ne nous soumets pas à la tentation » au lieu de « Ne nous laissez pas succomber à la tentation ». Mais la principale différence, au moins pour les catholiques, c'est qu'ils s'adresseront désormais à Dieu dans cette prière en le tutoyant. Les fidèles mettront sans doute quelque temps à s'y habituer, comme pour les nouveaux francs en quelque sorte. Mais en réalité, le tutoiement n'est pas une nouveauté. Il était d'usage courant jusqu'au XVIIe siècle, et les protestants l'avaient gardé. Bien plus, dans le texte latin du Pater, on a toujours dit « tu » à Dieu. Ce changement n'est donc pas une marque de familiarité, il est un retour aux origines et surtout, il facilite l'unification de cette prière. Le tutoiement et quelques différences de détails rendaient impossible aux chrétiens de dire ensemble, catholiques, protestants et orthodoxes, cette prière qui pourtant leur est commune. Maintenant, ce sera possible. Il s'agit donc d'un nouveau pas vers l'unité.
Ce changement est la conséquence du Concile de Vatican II qui s'est déroulé quelques semaines plus tôt. Mais ça n'est pas le seul changement. La période de l'abstinence aussi évolue avec Vatican II. François Jouffat d'Europe numéro 1 se fait tout expliquer par le père Roguet.
Les jeunes gens sont soumis à la loi de l'abstinence non plus à partir de 7 ans comme autrefois, mais à partir de 14 ans. D'autre part, l'abstinence ne touche que la viande et non pas les œufs, les laitages, ni les graisses animales.
Il ne faudra donc plus se confesser comme dans le temps lorsque, par exemple, les chrétiens mettaient de la sauce de viande sur du pain.
Oui, j'avoue d'ailleurs que ça m'agaçait toujours quand j'entendais des gens s'accuser de cela en confession, en oubliant généralement de s'accuser de choses beaucoup plus importantes.
Alors que l'Église se modernise grâce à Vatican II, la rockstar ecclésiastique fait son grand retour. Sœur Sourire. 2 ans plus tôt, cette nonne dominicaine a vendu 2 millions de disques dans le monde. Elle a même été numéro 1 des ventes de disques aux États-Unis. Mais en juillet 1966, il n'est plus question de l'appeler Sœur Sourire. La nonne redevient Janine Dekkers, car elle a quitté les ordres.
Sœur Sourire, vraiment, c'est un passé qui est un petit peu...
C'est un passé, ils ont une certaine enfance.
Oui.
On évolue alors.
D'ailleurs, c'est une chanson qui plaisait Dominique, c'était une chanson qui plaisait surtout aux enfants.
Ah oui, il y a une mère de famille qui m'a dit qu'elle mettait ça à son nouveau-né pour le calmer.
Vous avez vendu partout.
Oui. Pour le vendre en pharmacie, vous voyez.
Non, mais je parle du disque. Mm. On l'a vendu dans tous les pays.
On l'a vendu partout, oui.
Ça vous a surpris ou...
Ça m'a étonné un petit peu. Je trouvais que les gens étaient naïfs d'acheter ce machin.
Oui, mais enfin, vous faites des chansons pour les vendre. Enfin, il faut faire vendre des disques, même si vous n'utilisez pas l'argent pour...
À ce moment-là, je les faisais surtout pour mon plaisir, parce que ça m'amusait de chanter, j'étais heureuse, mais je comprenais pas que ça pouvait être diffusé de toute façon.
Elle est morte, Sœur Sourire, elle est morte, il était temps. J'ai vu voler son âme à travers les nuages sur un tapis volant. Messieurs les journalistes et messieurs les disquaires, sans doute feront critique, comprendront de travers, mais que Saint-Dominique veuille leur pardonner toutes les rumeurs publiques qu'ils auraient diffusées.
Sœur Sourire se lance dans la chanson engagée. Elle est bien décidée à continuer de diffuser des messages dans ses chansons.
Et la chanson dans tout ça, qu'est-ce que ça représente pour vous?
C'est un mode d'expression à côté d'autre.
Pas plus.
Pas plus, non.
Vous ne sentez pas le besoin de chanter, enfin, ce n'est pas un besoin pour vous.
Oh, j'ai besoin de chanter parce que j'aime chanter, mais j'ai autant besoin de dessiner que d'écrire. Enfin, c'est pareil, vous voyez. La chanson marche maintenant, donc on prend la chanson comme véhicule de bonnes nouvelles. Bien, si dans 10 ans, c'est le dessin qui marche le mieux, on prendra le dessin comme véhicule de bonnes nouvelles, vous voyez.
Donc le seul critère, c'est la diffusion.
la plus large
la
possible.
Diffusion, la plus large possible.
Ce retour de l'ex-sœur sourire coïncide avec la sortie d'un nanar que les Américains lui ont consacré. Eh oui, en 1966, Sœur Sourire a droit à un film autobiographique en forme de comédie musicale. The Singing Nun.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1966.
En 1966, Jacques Brel a 37 ans, il est au sommet de sa gloire. Et son dernier album, Ces gens-là, est un chef-d'œuvre.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts. Mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie.
À Europe numéro 1, en 66, Jean-Serge réunit Georges Brassens et Jacques Brel. Les deux artistes évoquent leurs idoles, dissertent sur la notoriété, sur la provocation et sur le public.
Votre chef d'inculpation. Pour la violence, on va à l'hôpital parce qu'on se défonce trop.
Je crois qu'il faut un peu...
Il a voulu dire déranger leurs habitudes.
Non, qu'il faut pas faire ce qu'ils veulent. Je ne dis pas
non,
veulent.
Sinon je vais me fâcher, je vais te violenter à toi aussi.
Il ne faut pas faire ce qu'ils veulent qu'on fasse, nécessairement.
C'est ça, déranger leurs habitudes.
C'est ça, c'est ça. Oui. Il faut pas, on n'est pas là pour plaire.
Écoute, Jacques, ça t'est déjà arrivé d'être amoureux ?
Ah oui.
Bon. Ça arrive, évidemment. Eh bien, tu as une femme qui a des cheveux noirs, par exemple. Hein. Je ne connais pas ton goût dans ce domaine-là, et d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Tu as une femme qui a des cheveux noirs, elle te plaît beaucoup. Un beau jour, elle s'amène avec des cheveux verts, par exemple. Hein. Ça va te déranger.
Oui.
Ça va te déranger, ça va t'embêter, mais combien de temps ? Au bout de 2 ou 3 jours, tu t'habitueras à ces cheveux verts et tu seras très content. C'est exactement pareil. Si on est attaché à un visage, si on est attaché à un être, si ce qu'il vous apporte est indispensable, au fond, les apparences, par exemple les cheveux verts, ce qui est quand même un truc un peu énorme, hein, ça a une importance dans l'instant, mais dans la durée, ça ne joue pas. C'est sûr, je pense que veut dire Jacques, quoi. Tu violentes le public, mais quand le public s'aperçoit que tu l'as violenté, c'est embêtant de dire ça parce que... faut pas se donner trop d'importance, mais que tu l'as violenté dans son intérêt, ça m'embête de dire ça, parce que l'intérêt du public, c'est une autre histoire. Hein. Mais il est content, quoi. Il est
oui, et puis parce que c'est peut-être, enfin, pour moi, c'est peut-être la seule manière de tout lui dire.
Quelques mois après cette émission, Brel prend une décision fracassante. Il arrête la scène.
Je vais abandonner le tour de chant. Et puis je voudrais continuer à écrire des chansons. Et vraisemblablement, les enregistrer. Voilà, mais le tour de chant, je vais l'arrêter, oui.
Quand vous arrêtez-vous ?
Eh bien, je vais terminer les contrats. D'ailleurs, j'ai pas de contrat, je signe jamais de contrat. Mais il y a des gars à qui j'ai dit je viendrai. Oh, ça va faire début mai.
Les Français ne parlent plus que de ça. Cette décision est plus commentée que son dernier album lui-même. Les journalistes viennent même interroger Brel à table, alors qu'il est au restaurant, verre de vin à la main.
Il y a même des raisons d'abandonner. On n'abandonne pas comme ça, on ne laisse pas tomber le public, selon la phrase consacrée. Vous le faites pourtant.
Mais non. Il y a 15 ans que je chante.
Oui.
Et c'est marrant, personne n'a voulu que je débute et personne ne veut que je m'arrête. Mais là, j'ai envie de respirer un peu.
Mais ça correspond quand même à une... certaines misanthropies.
Non.
Vous avez écrit ces gens-là. Est-ce que c'est ces gens-là que vous voulez suivre?
Non, moi, pas du tout.
C'est
pas du tout.
Les gens que vous arrêtez.
Non. Vous lisez trop. Non, c'est pour aller voir. C'est pour avoir le temps d'aimer, justement. J'ai un rythme de vie où j'ai peut-être plus très bien me tenter, mais j'ai envie d'aller voir, de regarder, de m'offrir le temps de me taire. C'est bon, ça. Ça, j'ai envie. Ça s'appelle la liberté.
Durant les 10 mois qui suivent, Brel fait une tournée d'adieu. Il se produit à Londres pour la première fois, au prestigieux Royal Albert Hall, l'une des plus belles salles d'Europe. Et ce soir-là, Europe numéro 1 est dans la loge.
Vous avez annoncé votre départ et on vous voit aujourd'hui à Londres. Oui. Cela mérite une explication. Non. Vous avez bien sûr des contrats honorés, c'est cela?
Oui, c'est ça. J'ai des contrats honorés jusqu'à la fin avril, début mai. Donc, début mai, dans les 2-3 premiers jours du mois de mai. Oui. C'est ce que j'ai toujours dit, d'ailleurs.
Et après, c'est...
Eh ben, après, c'est autre chose.
Après, vous allez me le dire avant la rupture, mais enfin, avant cette pause dans votre activité.
J'ai encore beaucoup de choses à faire. Hein. J'ai encore les États-Unis, le Canada, une tournée en France, en Suisse, encore de la Belgique, du Maroc.
Et le véritable départ, les véritables adieux, enfin les véritables au revoir. Le véritable au revoir de Jacques Brel, c'est en France, bien sûr.
C'est en France au début, dans le 2 ou 3 mai, je crois. Je crois que c'était à Angers. Mais c'était un hasard, enfin, parce que c'était le dernier truc à faire. Enfin.
Et après votre départ, on entendra, je crois, des disques.
Des disques. Ah, mais ça, c'est tout à fait différent.
Vous ferez des disques encore.
Je ferai des disques, bien sûr, bien sûr.
Et puis on vous reverra dans...
Je crois pas qu'on vous reverra, non.
Mais bien sûr.
Ben oui, je suis bien sûr. Enfin, oui.
À l'automne 1966, c'est la dernière de Brel à l'Olympia. Un événement à ne pas rater, où se presse le tout Paris. Et encore une fois, Europe numéro 1 est là. Dans la corbeille des vedettes.
Eh bien, c'est bravo, ce sont ceux qui saluent la sortie de scène de Jacques Brel. Vous voyez qu'ils sont nourris, il est en train de saluer le public. Claude Orléac, est-ce que vous y croyez à ce que Jacques Brel ne chante plus jamais?
Oh, j'espère que non, c'est ça. Je suis tellement émue ce soir.
Mais vous pleurez?
Oui. Il m'a beaucoup émue. Il a l'air tellement ému de venir chanter. Bravo. Encore. J'espère que ça ne s'arrêtera jamais.
Il vous a vraiment bouleversé à ce point.
Oui. Oui.
Catherine Deneuve, est-ce que vous croyez que Jacques Brel abandonnera la chanson?
Oh non, c'est pas possible. J'espère que non, en tous les cas. Des trompes extraordinaires. Vraiment, je souhaite de toutes mes forces que non.
Même si un jour, à Knokke-le-Zoute, je deviens, comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante Mikolasson avec la voix bandonnéante d'un Argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, il fait ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie, chaque nuit pour des éléphants roses, je rechanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. Un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vends des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais PD, de fausses vierges. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je rechanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois.
C'était l'immense Jacques Brel avec la chanson de Jackie qui conclut donc ce deuxième épisode d'Omblat raconte consacré à l'année 1966. Guillaume Maury et Julien Pichenet sont mon bras droit et mon bras gauche. Boris Paczynski signe la réalisation de cet épisode. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1966, dans le troisième épisode dont De Lattre raconte une année.
Retrouvez On De Lattre raconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.